Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et pour suivre la ligne droite, nous sommes avec une chroniqueuse particulièrement, que je suis très honoré de recevoir ce matin. Merci Magda Hautefeuille d'être avec nous. Alors de quoi allez-vous nous parler ?
Eh bien, un an de la présidentielle de 2027, je vais vous parler du rapprochement progressif entre le Rassemblement national et une partie du monde économique. Et elle s'est clairement concrétisée ce lundi avec le déjeuner entre Jordan Bardella et le MEDEF. Et, il faut repartir du coup du point de départ pour comprendre tout ce qui se joue. Pendant longtemps, le RN il a été tenu à distance de ses cercles, il progressait dans les urnes, il s'installait dans le paysage politique, mais il restait en dehors des lieux où se construit la crédibilité gouvernementale, notamment sur les questions économiques. Il existait une forme de frontière un peu implicite, on débat avec les partis de gouvernement, avec l'opposition classique, mais pas avec le RN.
Donc ce type de rencontre n'aurait pas été possible il y a encore 5 ou 10 ans ?
Disons pas dans ces conditions-là. Ce qui change, c'est pas simplement le fait qu'il y ait un échange, c'est le niveau de cet échange et le contexte. Jordan Bardella a été reçu pendant plus de 2 heures par le bureau exécutif du MEDEF. Ce n'est pas une rencontre périphérique, ce n'est pas un rendez-vous discret, c'est une réunion avec le cœur du patronat organisé. Et ce rendez-vous intervient quelques jours seulement après un dîner entre Marine Le Pen et plusieurs dirigeants de grandes entreprises du CAC 40. Cela veut dire que ce n'est pas un événement qui est isolé. Et à la sortie, Jordan Bardella parle même d'échanges extrêmement courtois, sans tabou, transparents sur l'économie française, notamment sur la fiscalité et les normes. Le choix des mots n'est pas anodin, il dit bien que la relation n'est plus la même qu'avant.
Donc ce qui change aujourd'hui, ce n'est pas le RN en lui-même, mais le regard qu'on porte sur lui.
Plutôt, oui, mais il faut être précis, ce n'est pas une adhésion du patronat aux idées du RN, hein, c'est juste une normalisation relationnelle. Le RN n'est juste plus mis à l'écart, il fait désormais partie des acteurs avec lesquels le dialogue est assumé. Le président du MEDEF, Patrick Martin, l'a dit très clairement, on ne peut pas exclure le RN du spectre politique parce qu'il pèse lourd au Parlement. Autrement dit, il ne s'agit pas de dire « nous sommes d'accord avec le RN », il s'agit de dire « le RN existe, il est puissant, il faut donc lui parler ». Et pour moi, cette prise en compte de la réalité est déjà en elle-même un tournant.
C'est-à-dire que le monde économique commence à se préparer à l'hypothèse RN.
C'est exactement ça. Certaines grandes entreprises cherchent désormais à comprendre et influencer le programme économique du RN. Et là encore, ce n'est pas un soutien, mais c'est un changement de posture. Parce qu'on ne cherche pas à influencer un parti qui est marginal. Hein. On cherche à influencer un parti dont on pense qu'il peut gouverner. Cela signifie que le RN est une hypothèse sérieuse dans le regard des acteurs économiques. Et il y a un autre élément aussi qui permet de mesurer ce changement de statut. C'est la manière dont le MEDEF organise aujourd'hui ses relations politiques. Ce déjeuner avec le Rassemblement national ne sort pas de nulle part. Il s'inscrit donc dans une série d'entretiens avec l'ensemble des formations politiques représentées au Parlement. Le MEDEF a déjà reçu des responsables comme Olivier Faure, Gabriel Attal, Fabien Roussel et d'autres rencontres sont prévues avec Édouard Philippe ou encore François Bayrou. Et donc autrement dit, le patronat ne change pas de camp, hein, il fait ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire parler à tous ceux qui peuvent gouverner et c'est précisément là que le RN entre maintenant dans cette catégorie.
Donc le RN est désormais traité comme tous les autres partis.
Sur le plan du dialogue, oui. Et c'est ça qui est peut-être nouveau, puisque pendant longtemps, il y avait une forme d'exception, et aujourd'hui, cette exception, elle disparaît. Le RN est intégré dans le circuit classique des échanges politiques avec le monde économique, et ce n'est pas neutre, parce que cela signifie que le débat ne porte plus sur sa légitimité à être reçu, mais sur le contenu de son programme.
Et Bardella, dans cette rencontre, il adopte quelle ligne ?
Il adopte une ligne qui est finalement cohérente avec cette évolution. Donc, dès son arrivée, il refuse de qualifier la rencontre d'audition et déclare « je ne suis pas en audition à l'école ». Cette phrase, elle signifie que le RN ne se présente plus comme un parti en quête de validation. Il ne vient pas chercher un label de respectabilité, il vient discuter d'égal à égal. Pendant des années, le RN cherchait à être reconnu comme fréquentable. Et aujourd'hui, il considère que cette étape est franchie et qu'il peut imposer son propre cadre.
Est-ce qu'on peut revenir sur cette phrase sur l'entreprise honteuse ?
Oui, parce qu'elle est importante. Quand Bardella dit « je ne suis pas de gauche, je n'ai pas l'entreprise honteuse », il cherche à corriger une perception. Le RN a longtemps été perçu comme parfois critique vis-à-vis du monde de l'entreprise. Là, il envoie un message inverse. Il affirme croire en la liberté d'entreprendre. Il met en avant le redressement économique et le pouvoir d'achat. Il cherche à montrer que son projet n'est pas incompatible avec l'activité économique. Et surtout, il essaie de parler à deux publics en même temps, les électeurs populaires et les acteurs économiques.
Donc concrètement, qu'est-ce que le RN propose pour convaincre les entreprises ?
Eh bien, dans la lettre envoyée aux chefs d'entreprise, Marine Le Pen et Jordan Bardella parlent de propositions concrètes pour le redressement de l'entreprise française. Ils annoncent un projet d'ordonnance de simplification destiné à lever les verrous normatifs qui freinent le développement économique, et cela vise les contraintes administratives, juridiques et notamment celles issues de textes européens. C'est un axe qui est assez central d'ailleurs de leur discours, c'est de dénoncer la complexité, réduire les délais, alléger les procédures. Ce discours, il est audible dans une grande partie du monde économique et en particulier chez les PME, donc les petites et moyennes entreprises, et les industriels qui se plaignent depuis longtemps de la lourdeur administrative. Et sur ce point précis, il y a des exemples très concrets qui circulent dans le débat économique. Des responsables du RN, notamment Jean-Philippe Tanguy, si je ne me trompe pas, expliquent que, par exemple, en France, ouvrir une usine peut prendre entre 18 et 36 mois, contre environ un an dans certains pays voisins comme la Belgique. Donc ce type d'argument est régulièrement avancé pour justement illustrer ce qu'ils appellent la suradministration française, avec des codes juridiques devenus extrêmement lourds. Il y a le code du travail, de l'environnement, de l'urbanisme, et qui justement ralentissent les projets industriels.
Et ça, c'est un discours qui parle au terrain.
Eh bien, plutôt oui, parce qu'il correspond à une réalité vécue par beaucoup d'entreprises, donc notamment les PME. Et c'est là que le RN cherche à se positionner, non pas uniquement comme un parti politique, mais comme un acteur capable de proposer des solutions concrètes sur des blocages identifiés depuis longtemps. Cela ne veut pas dire que tout est réglé, mais cela permet d'entrer dans une discussion beaucoup plus opérationnelle avec les acteurs économiques.
Donc le RN cherche à devenir un parti crédible économiquement.
Oui, le RN a déjà consolidé sa crédibilité sur les questions régaliennes, mais pour une présidentielle, cela ne suffit pas. Il faut aussi convaincre sur l'économie, et c'est là que se joue aujourd'hui une partie assez décisive. Le parti essaie de construire une ligne qui combine soutien et l'activité économique. Et défense du pouvoir d'achat, c'est une ligne qui est politiquement efficace, mais qui est techniquement assez exigeante.
Et est-ce que cette ligne, elle convainc aujourd'hui ?
Eh bien, pas totalement. Ah. C'est important de le dire, des réserves existent. Des responsables américains, par exemple, ont rencontré des cadres du RN en vue de la présidentielle de 2027. Et ils ont exprimé des inquiétudes sur plusieurs points, la capacité à réduire le déficit, à attirer des investissements et la cohérence globale du programme. Et il est aussi question de messages parfois contradictoires sur des sujets comme les retraites. Et ces interrogations ne viennent pas seulement de l'étranger, elles existent aussi en France, y compris chez certains chefs d'entreprise, justement. Plusieurs d'entre eux évoquent une difficulté à lire clairement la ligne économique du RN. D'un côté, une volonté affichée de soutenir les entreprises et la production. De l'autre, des mesures perçues comme interventionnistes, notamment sur la redistribution sociale ou certaines orientations budgétaires.
Donc il y a encore une forme d'incertitude.
Oui, mais là encore, cette incertitude est liée au fait que le RN est en train de passer d'un discours donc, d'opposition à une logique de programme de gouvernement, et ce passage l'oblige à préciser, à arbitrer, à hiérarchiser. C'est une phase qui est normale de la construction d'une offre présidentielle, mais cette question de crédibilité ne se pose pas seulement en France, elle est aussi observée de près à l'étranger, notamment par les partenaires économiques et politiques.
Et donc du coup, à l'international, comment ces positions sont-elles perçues, notamment du côté américain ? Quel est le lien avec Donald Trump dans tout ça ?
Bien, cette question se pose parce que, bah, comme je le disais précédemment, des représentants américains, dont l'ambassadeur des États-Unis à Paris, ont récemment rencontré plusieurs responsables politiques français, dont des cadres du Rassemblement national, donc dans la perspective de la présidentielle 2027. Et là-dessus, il faut un peu distinguer quand même les plans, puisque sur le plan politique, au sujet de Donald Trump, il y a eu un soutien qui est clair. L'an dernier, après la condamnation de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens, Donald Trump avait dénoncé une chasse aux sorcières et appelé à sa libération. Mais les échanges plutôt récents montrent que ce soutien politique ne signifie pas forcément une validation du programme économique. Et c'est logique à partir du moment où un parti est perçu comme capable de gouverner, il est jugé sur sa capacité à tenir une politique économique qui est crédible.
Ceci dit, j'ai envie de dire que le Rassemblement National le rend bien aussi au camp Trump de ne pas donner son soutien. Mais donc, voilà. Ces critiques sont plutôt un signe de crédibilité que de faiblesse.
En partie, oui. Tant qu'un parti est perçu comme incapable d'accéder au pouvoir, ses propositions ne sont pas examinées en détail. Donc à partir du moment où il devient crédible, elles sont analysées beaucoup plus sérieusement. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Le RN n'est plus seulement jugé pour ce qu'il représente politiquement, mais pour ce qu'il ferait concrètement au pouvoir.
Donc on change complètement de registre.
Oui, on passe d'un débat sur la légitimité à un débat sur la capacité. Et ce n'est pas du tout la même chose. Cela implique de fait des exigences beaucoup plus fortes, importantes, comme la cohérence budgétaire, la lisibilité des mesures, la capacité à arbitrer. Il faut aussi ajouter la réaction des autres acteurs sociaux. Cette rencontre entre le RN et le MEDEF n'a pas fait l'unanimité. Du côté syndical, la CFDT a parlé de cynisme, estimant que recevoir le RN revenait à accompagner sa normalisation politique. Et d'autres organisations, comme la CPME, ont au contraire dénoncé l'hypocrisie de ceux qui s'en offusquent en rappelant qu'une organisation patronale doit parler à tous les acteurs politiques susceptibles d'exercer le pouvoir.
Même là, ça fracture.
Et oui, et c'est assez intéressant parce que ça montre que le débat ne porte plus seulement sur le RN en lui-même, mais sur la manière dont les institutions doivent se positionner face à lui. Et ce déplacement du débat montre qu'on ne discute plus seulement des idées du RN, on discute de sa place dans le système politique.
Donc le vrai enjeu pour 2027
Eh bien, le RN a consolidé déjà sa place politique, il est très bien installé dans le paysage, il est très haut dans les intentions de vote. Maintenant, cette rencontre avec le MEDEF, les rencontres avec les grands patrons, les critiques américaines, montre que c'est désormais sur ce terrain économique que se joue une partie importante. Ce déjeuner ne signifie pas que le patronat est acquis au RN, il signifie que le RN est devenu un acteur qu'on ne peut plus contourner. Et finalement, ce qui se joue ici, ce n'est pas un simple déjeuner entre responsables politiques et patrons, c'est le basculement d'un parti qui a été ostracisé hier et qui aujourd'hui est une pièce centrale.
Merci beaucoup Magda Hautefeuille pour cette chronique. Voilà, vous vous débrouillez très bien dans l'exercice d'ailleurs, je trouve. Je vous
adresse Alexandre.
Toutes mes félicitations, vous maîtrisez. Et puis tout de suite, Le Monde Autrement avec Mériadec Raffray.
Ligne droite, Le Monde Autrement, Mériadec Raffray.
Et pour donc cet entretien, nous allons recevoir Mériadec Raffray. Mériadec Raffray, eh bien, vous êtes un habitué de Ligne Droite. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, des pages Monde de Valeurs Actuelles et auteur de plusieurs ouvrages. Et vous recevez aujourd'hui François-Xavier, je ne sais pas comment on prononce.
Frelan.
Voilà, François-Xavier Frelan, qui vous êtes journaliste, écrivain. Mériadec Raffray, je vous laisse mener cet entretien.
Bonjour à tous, bonjour François-Xavier Frelan, c'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Une fois n'est pas coutume depuis ces semaines qui s'enchaînent, nous n'allons pas parler du Moyen-Orient. Non, nous n'allons pas parler du Moyen-Orient, nous n'allons pas parler du Proche-Orient non plus. Nous allons parler d'une autre de mes et de nos passions, nous allons parler d'Afrique. François-Xavier Frelan, vous venez de signer et de publier, je ne sais pas si la caméra, voilà, on peut le voir à la caméra, j'essaye de le montrer, voilà, ce livre qui s'appelle « La grande repentance, Afrique-France, les infortunes de la vertu », avec trois entretiens, notamment un entretien passionnant que vous avez réalisé avec Boualem Sansal, qui est un homme évidemment très très connu, aux éditions Intervalle. Je qualifierais ce livre, et vous me reprendrez si ça vous choque, de « Témoignage-essai ». C'est un livre très personnel, comme il en existe peu. C'est déjà une qualité de ce livre. C'est un livre qui raconte qui synthétise, qui donne la substantifique moelle de plusieurs dizaines d'années passées sur le terrain. François-Xavier Frelan, vous êtes d'abord un grand reporter de terrain. Il y en a de moins en moins. Et vous avez nomadisé. Alors, vous êtes un spécialiste aussi de l'Amérique du Sud et vous êtes connu pour ça puisque vous êtes en particulier un des hommes qui avait fait un des premiers documentaires sur Javier Milei, que l'on peut retrouver d'ailleurs sur Public Sénat et qui s'intitule, si je ne me trompe pas, Javier Milei.
Le président à la tronçonneuse.
Le président à la tronçonneuse, vous ne m'avez pas laissé me planter. Merci beaucoup François-Xavier Frelan. Donc, vous connaissez bien l'Amérique du Sud, on met ça de côté. Simplement, ce que je voulais signaler, c'est que vous faites partie de ces grands journalistes reporters expérimentés qui allaient sur le terrain et surtout François-Xavier Freland, une qualité qui se perd, vous êtes un journaliste qui racontait ce que vous voyez. Et ça, c'est quelque chose de très important. Juste pour vous situer, François-Xavier Freland, vous avez longtemps officié au sein des rédactions parisiennes et politiquement correctes des médias publics. On peut les citer. Hein.
France Info, France Inter, RFI, France 24. Alors, j'ai beaucoup été correspondant, donc beaucoup à l'étranger sur le terrain, comme
c'est
vous l'avez
ça.
Dit. J'étais pas forcément dans la rédaction, j'étais dans la rédaction notamment de France Info. Je n'ai jamais été dans celle de France Inter, par exemple.
Voilà,
mais à RFI, j'étais dans la rédac aussi, à TV5 Monde. Et ensuite, j'étais beaucoup correspondant, vous l'avez dit, alors au Mali, Bamako, Caracas, au Venezuela.
Alors, je ne l'ai pas encore lu, mais j'allais le dire. Et surtout, vous avez fait des allers-retours entre les moquettes parisiennes de ces médias germano-pratin, pensant comme il faut. Des allées et des retours, longs d'ailleurs, des périodes longues d'insertion, de vie sur le continent africain. François-Xavier Freland, vous avez voyagé de Bamako à Ouagadougou, de Dakar à N'Djamena. Vous êtes un des meilleurs et des plus fins connaisseurs de l'Afrique subsaharienne et en particulier de l'Afrique sahélienne. C'est l'objet de votre livre. Votre livre, vous m'avez dit avant de préparer cette antenne, c'est un peu un cri de colère, mais disons un cri de vérité. Pourquoi avez-vous écrit ? Quel a été le déclic de votre livre et qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce livre ?
Bah, écoutez, j'ai voulu expliquer que durant des années, surtout depuis, on va dire, l'occupation islamiste au Nord Mali, donc c'était en 2012, et l'intervention militaire franco-africaine de Serval puis Barkhane, en gros, les médias français, entre autres, et la diplomatie derrière, ont fait contre-jeu avec nos militaires sur le terrain, à travers des messages souvent extrêmement négatifs sur ce qu'on faisait en Afrique. Alors, je vais vous donner deux ou trois exemples. Quand les militaires français de Barkhane étaient en train de lutter contre le djihadisme, on parlait, par exemple, depuis Paris à RFI, d'une armée néocoloniale. Vous aviez régulièrement des points sur les quelques bavures de l'armée française. La moindre petite bavure devenait un scandale qui devait heurter, évidemment, les Africains qui nous écoutent. Il ne faut pas oublier que RFI, France 24 sont des médias de l'audiovisuel extérieur qui sont dirigés principalement vers l'Afrique, et les Africains en général, que ce soit les Maliens, les Nigériens, écoutent RFI avec leur poste parfois au fin fond du désert. Donc c'était un petit peu pour critiquer cette espèce de dynamique négative, d'autoflagellation d'ailleurs, de grande repentance permanente que j'ai voulu écrire ce livre, en expliquant que finalement c'était depuis Paris qu'on avait créé quelque part ce sentiment anti-français. En gros, depuis la diplomatie, depuis le Quai d'Orsay même, malheureusement, par exemple, le président Macron s'est entouré de beaucoup de gens qui étaient parfois des franco-africains, qui avaient parfois quitté des dictatures, qui étaient devenus des intellectuels en France et qui, étrangement, critiquaient toujours la dictature. Par exemple, on va dire, on ne va pas citer d'exemple, mais qui critiquaient certains pays en Afrique, mais qui critiquaient aussi le pays dans lequel ils se trouvaient, ce qui m'a, moi, beaucoup heurté, et je trouvais que c'était finalement assez contre-productif pour un pays, la France, qui avait des amis en Afrique, qui avait aussi des intérêts économiques à défendre, comme d'ailleurs toutes les puissances du monde, les Américains, les Russes, les Chinois, les Turcs, tout le monde veut défendre ses intérêts économiques. Or, on n'était focalisé que sur le passé de la France, alors on ne parlait que de colonisation, des mauvais aspects de la colonisation, de l'esclavage, évidemment. Tous les quarts d'heure sur les antennes de nos médias audiovisuels extérieurs. Voilà, je crois qu'on a participé depuis Paris à créer cette opinion hostile, et à la fin les Africains nous ont dit puisque vous êtes si mauvais, partez.
Je vous ai dit que c'était un homme de radio, François-Xavier. François-Xavier, je vous cite. La nuit est tombée sur Bamako et les sauveurs de la planète, comme les donneurs de leçons, sont partis consommer ailleurs.
Oui. Je crois qu'en fait, il y a les Français étaient. Quand j'y ai vécu, je suis arrivé dans les années 2000, c'était un pays où on était extrêmement bien vu. Moi, j'étais au Mali, notamment. J'ai beaucoup voyagé ailleurs, mais j'étais au Mali en 2008, par exemple, 2007-2008. J'y étais un peu avant, mais j'ai vécu en 2007-2008. Je n'ai jamais entendu quelque chose de très négatif à notre égard. Et même, j'entendais souvent des petits vieux, des anciens tirailleurs me dire « Ah là là, au temps de la France, avec un brin de nostalgie dans les yeux ». Donc j'avais le sentiment que le passé qui n'était pas passé, on va dire certaines choses, évidemment, c'était un petit peu résolu au fil des années. Ça fait quand même plus de 50 ans, et qu'on était encore bien vus, on avait des relations sympathiques et tout. Et puis, j'ai vu, donc je vous ai parlé de ce moment qui s'est détérioré avec les Africains, et soudainement, j'ai vu le retournement des opinions, aussi parce qu'on est dans un monde globalisé. Faut savoir qu'il y a encore 20 ans, au Mali, à Bamako, on écoutait la petite musique malienne, c'était la kora, c'était des choses très simples, très traditionnelles. Aujourd'hui, vous avez du rap partout, vous avez une américanisation qui arrive aussi en Afrique, et l'Occident, bah, c'est un peu l'américain, c'est un peu ça aussi, avec ses mœurs, etc.
Ce que vous racontez dans votre livre, François-Xavier, c'est comment, en fait, ces Français que vous résumez avec cette expression, les sauveurs de la planète, ceux qui venaient pour rééduquer les Maliens au nom, en fait, de la repentance des colonialistes, ces gens-là, en fait, se sont empressés de faire leur bagage et leurs valises et de prendre leur gros 4x4 pour aller vivre ailleurs lorsque le danger s'est rapproché. Autrement dit, ce que vous expliquez, ce que vous soulignez dans votre livre, c'est que les sauveurs, ceux qui voulaient participer à la résurrection, à la renaissance de cette Afrique en édulcorant toute la partie coloniale, se sont empressés de les laisser tomber quand ils ont eu le plus besoin. C'est ça que vous expliquez aussi dans votre livre.
Oui, alors c'est aussi cette schizophrénie bien française qui consiste à critiquer. Alors moi, ça m'a beaucoup amusé parce que je voyageais donc à Bamako, Niamey, et j'entendais tout le temps des Français à table. Alors c'était souvent des humanitaires, critiquer par exemple l'intervention militaire. Mais j'avais envie de, je leur disais d'ailleurs, mais attendez, si vous êtes là en train de déjeuner, de dîner, d'ailleurs dans les beaux restaurants de Niamey, c'est peut-être parce que les militaires français font bien leur job et que vous n'êtes pas encore inquiétés. Or, il y avait beaucoup aussi de Afro ou de Nigériens français qui avaient donc la double nationalité, souvent de l'élite locale, qui avaient donc le double passeport et qui critiquaient pareil la France. Et moi je leur disais, mais attendez, vous avez le double passeport, vous ne pouvez pas cracher dessus. Or, qu'est-ce que j'ai vu? Dès qu'il y a eu les premiers coups d'État, c'était les premiers dans l'avion à partir avec le vol Air France.
Cette élite, cette bourgeoisie africaine qui était la première à critiquer, en fait, le passé, la France, tout ce que la France représentait, qui avait par ailleurs tous des bases de repli au bord de Seine pour les plus riches et en banlieue parisienne pour les moins riches, sont tous empressés de prendre l'avion quand la nuit djihadiste est tombée sur Bamako.
Si possible, gratuitement, avec des vols Air France affrétés par la France.
Bien sûr, bien sûr. Il y a un autre aspect de votre livre aussi qui est très intéressant, c'est vous décortiquez, vous avez vu à l'œuvre et vous décortiquez la déliquescence de la diplomatie française. Je vous cite... Depuis 20 ans, écrivez-vous, j'ai vu de Dakar à Bamako, d'Abidjan à N'Djamena, les centres culturels français financés avec l'argent du contribuable se transformer, dites-vous, écrivez-vous plutôt, en laboratoire du sentiment anti-français. Expliquez ça aux auditeurs.
Bah, c'est encore le cas. Hein. Vous allez à Dakar aujourd'hui, vous allez vous rire même parce que ça devient grotesque. C'est-à-dire que tous les spectacles, qu'ils soient de danse, de théâtre, c'est forcément autour de l'esclavage, autour du sort du pauvre migrant dans la Méditerranée qui essaye d'aller en France. Et c'est toujours vu dans une perspective de critique, finalement, de ce que nous faisons. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes dans des centres culturels français, vous l'avez dit, payés par le contribuable quand même, et que c'était la mode, en fait. On voulait montrer ça à la fois à des spectateurs français, qui étaient des expats, mais aussi aux Africains, à l'élite africaine. Parce qu'il faut comprendre que dans beaucoup de pays, c'est pas le cas du Sénégal, mais dans beaucoup de pays, le centre culturel, il n'y en a pas. C'est le centre culturel français. Donc quand on est un Malien, un habitant de Bamako, et qu'on va au théâtre, eh bien, on regarde un spectacle qui va critiquer la France durant une heure et demie. Moi, ça m'a beaucoup choqué. Je trouvais que c'était complètement dépassé. Et puis, il y a aussi les bibliothèques de ces centres culturels. Quand vous allez dans une bibliothèque, mais vous allez lire que des livres qui critiquent la France. C'est cette nouvelle génération anti-France-Afrique. Alors, c'est aussi contre le colonialisme. Il n'y a que ça, il n'y a plus d'écrivain. Saint-Exupéry, vous ne le trouverez pas.
Très intéressant. Vous dites, à propos des ambassadeurs français, que vous avez constaté qu'ils étaient, je vous cite, « réduits en quelque sorte à la fonction mondaine, traînant leur ennui, leur impuissance en dodelinant de la tête d'une réception à une autre ». C'est cruel. Oui, c'est... Et n'êtes-vous pas un peu caricatural ?
Malheureusement, non. Et puis, même eux le disent, parce que pour écrire ce livre, j'ai eu quand même quelques contacts avec le milieu de la diplomatie, notamment, et autres. Hein. Et malheureusement, c'est leur aveu, en fait. Ils ont l'impression de ne plus servir à rien. Ils ne font que être à des, justement, à des vernissages culturels où on va trinquer, encore une fois, pour un artiste qui va critiquer la France. C'est quand même assez drôle et c'est cocasse. Et je l'ai vu plusieurs fois. Et ce sont des diplomates qui, autrefois, avaient un rôle important, justement, de tampon avec les erreurs de la diplomatie française depuis le Quai d'Orsay, avec les erreurs des présidents aussi. Or, aujourd'hui, il y a une telle volonté, sans doute, de la part du président Macron, de tout diriger, que ces hommes-là, finalement, bah, ne sont que des êtres de cocktail qui s'ennuient un petit peu et qui, malheureusement, sont très frustrés dans leur vocation diplomatique.
Alors, il y a un autre aspect aussi de votre livre qui est très intéressant, c'est, on vous parlait tout à l'heure des binationaux. Et vous analysez dans votre livre, en fait, le pari de Jean-Luc Mélenchon, notre ami à tous ici, à Radio Courtoisie, qui tisse sa toile. Expliquez-vous et racontez-vous depuis 20 ans sur un continent, je vous cite, dont il sait l'immense réserve de voix qu'il constitue pour son parti.
Ah oui, évidemment, on le
alors
sait.
Ça, c'est un élément, je pense, qui est assez peu connu, en fait, des auditeurs français. Peut-être il est apparu à l'occasion de la montée en puissance au Sénégal de l'équipe Bassirou Diomaye Faye et Sonko, le duo infernal nationalisto-islamiste, ou en tout cas...
plutôt de gauche.
Voilà. Socialiste, nationaliste, islamiste, hein, en fait, pour essayer de caricaturer schématiquement, pour résumer. Alors, racontez-nous un peu ce pari mélenchonien sur l'Afrique qui explique d'ailleurs, qui permet de décrypter le discours de Mélenchon à Paris.
Oui, alors, en fait, Mélenchon, comme beaucoup, il a récupéré ce climat un petit peu hostile à la France en jouant sur les identités. On le sait, il le fait en France. Tout simplement, il a pu profiter de soutien depuis l'Afrique, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de franco-africains, beaucoup de gens qui tiennent des partis de gauche, d'ailleurs, en Afrique, et qui, petit à petit, ont fait remonter un courant hostile à la France dans le milieu de la diaspora, région parisienne, autour des grandes villes, etc. Et ça a pris. Pourquoi ça a pris? Bah parce que, tout simplement, Mélenchon, c'était celui qui protégeait l'islam, c'était celui qui protégeait, finalement, la religion musulmane. On parlait pas des petits problèmes que vivent les homosexuels dans ces pays-là, parce que vous le savez, au pays du Sénégal, c'est aujourd'hui considéré quasiment comme un meurtre, on est emprisonné. Donc, on ne parlait que des choses...
Comme un crime, pardon.
Ouais. Et donc, tout ça faisait que, petit à petit, ça a pris. Ouais. Ça a pris grâce à ces franco-africains de Bamako, qui étaient souvent de l'élite, hein, qui aimaient, finalement, qui étaient assez attirés par ce populisme de gauche qui va de pair avec un panafricain. Alors attention, il y a des choses intéressantes, on va pas tout jeter. Le panafricanisme, pourquoi pas, le souverainisme, pourquoi pas. Mais quand c'est pour, finalement...
Oui, ce que vous voulez dire, c'est le souverainisme pour nous, le patriotisme pour nous, donc pour eux aussi, logiquement.
Exactement. Voilà. Or, le problème, c'est qu'effectivement, je le dis souvent, moi, ce qui m'a beaucoup choqué, finalement, même à Paris, quand j'étais en Afrique, quand je vivais à Bamako, le jour de la prière, j'étais quand même assez discret, je me faisais pas trop remarquer. Or, je suis très étonné, parce que je sais que les Africains sont très sensibles aux traditions, je suis parfois un peu étonné que quand ces mêmes Africains arrivent en Europe, notamment en France, ça soit pas du tout le même respect des traditions de la personne qui vous accueille. C'est quelque chose, moi, qui m'a toujours choqué quand je vais chez un ami ou un voisin, je sonne à la porte, je dis bonjour, bonsoir, et je me retire
à Rome,
avec le sourire.
Fait comme les Romains.
Voilà, c'est ça, exactement. À Rome, fait comme les Romains. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où finalement, on excuse beaucoup de choses chez les autres, mais pas chez soi. Et ça, c'est très français. C'est ça, la grande repentance. On est tout le temps en train de se faire le mea culpa de nos erreurs. Il y en a certainement eu, hein, dans une relation d'amitié quand même entre les Africains. D'ailleurs, je le répète, depuis Bamako ou Dakar, en général, on nous aime bien. C'est plutôt en région parisienne qu'on nous aime moins.
Ouais, j'allais y revenir là-dessus. Il y a aussi dans cette espèce de relation particulière entre Jean-Luc Mélenchon et l'Afrique, il y a aussi pourquoi ça prend, expliquez-vous, et ça c'est très intéressant, je trouve, c'est assez subtil, enfin en tout cas peu connu, c'est que finalement, du côté africain, sur le continent africain, le discours de Mélenchon fonctionne parce que, dites-vous, il répond en fait à une certaine attente de la population et en particulier celle, la peur en fait de perdre leur double nationalité eu égard au durcissement du sujet en métropole, en France.
Bah, c'est évident.
Et voilà, donc mais c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est pas l'anti-français, c'est tout simplement un opportunisme.
Oui, je peux le comprendre, c'est aussi la peur de ne pas pouvoir avoir de papier quand un migrant part de l'autre côté. Si les lois se durcissent, ça va être de plus en plus compliqué. Donc effectivement, c'est un jeu finalement assez pervers. Mmh. Et c'est là où on rejoint cette citation de Sade, quelque part. Le français, c'est un peu l'expression, le cocu de l'histoire. Et c'est celui, justement, on en profite un peu quand ça nous arrange, mais effectivement, on a toujours peur de perdre ces petits privilèges, parce que c'est un petit privilège quand on a un double passeport, qu'on vit en Afrique et que soudain il y a un coup d'État. Je vous le répète, on est bien content d'être dans le vol affrété par la République pour retourner à Paris dans son appartement, etc.
Alors, le cocu de l'histoire, peut-être pas à la fin. C'est ce que vous esquissez aussi dans ce livre, et après, je vais revenir sur la construction du livre. Vous avez plusieurs chapitres sur la Russie en Afrique. Vous, comme journaliste de terrain, vu, constaté, mesuré la montée en puissance de l'influence russe, parce que la présence russe n'est pas si importante en réalité, non. C'est surtout l'influence russe. Et vous avez vu ce phénomène s'accélérer et son corollaire, la diminution en fait de l'acceptation de la France dans son précaré, et vous esquissez l'idée ou la possibilité ou la perspective qu'à la fin du jeu, finalement, cela profite à la France.
Oui, en fait, encore.
Alors racontez un peu cette.
Écoutez, quand on regarde les indépendances, pendant un moment, les Soviétiques étaient quand même très présents. Ils étaient présents au Mali, ils étaient présents en Guinée, à l'époque de Sékou Touré, etc. Donc on a vu un rejet de la France juste après les indépendances, et puis très vite, les Français sont revenus. Pourquoi ? Bon, pour des raisons simples, on l'imagine. La connaissance des pays, quand même, c'est pas rien. On est le pays qui, non seulement a participé à construire certains États, c'est pas négatif, des routes, mais on est aussi un pays qui connaît les mentalités des gens en général. Et c'est pas si simple, quand on est américain, russe ou chinois, notamment les Chinois, pas facile de se faire accepter, pas facile de comprendre déjà ce qu'ils disent.
La barrière de la langue, déjà.
La barrière de la langue, exactement. Exactement, ils parlent français. Donc, les Français reviendront parce que, je pense, au fond d'eux-mêmes, les Africains nous aiment bien parce qu'on a quand même une relation très longue, très forte. On a cette connaissance, pardonnez ça paraît prétentieux, mais des subtilités. Je suis désolé, mais on ne mélange pas...
Du savoir-être.
On ne mélange pas les ethnies. Quand je suis face à un peuple, moi, je reconnais un peuple. Je sais quel chapeau il met sur la tête, c'est idiot. Mais il y a des gens pour qui ce ne sont que des Africains. Eh ben non, je suis désolé. Un Dogon, c'est un Dogon. Il a un chapeau bien spécial. Et surtout, il a une religion. Il ne faut jamais oublier une chose. C'est que quand les Français étaient là, et ce n'est pas de la nostalgie, mais les Français, parfois, ont essayé justement de défendre certaines ethnies minoritaires dans des pays... Par exemple, le Mali.
Par exemple, les Touaregs au Mali.
Les Touaregs, mais les Dogons aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une ethnie majoritaire qui était les Bambara, qui étaient les Malinkés, qui
mettaient en esclavage les Touaregs à la fin du combat.
Des deux côtés, attention. Mais c'est surtout que les Français essayaient de mettre d'accord des ethnies au lieu de les diviser, comme on a souvent entendu parler derrière, d'ailleurs. C'est pas vrai. Quand vous parlez aux Touaregs, et on leur a reproché, c'est ça qui est drôle, on a reproché aux Français de trop protéger les Touaregs. Alors attendez, vous leur dites tout le temps qu'ils ont aiguisé les adversités des ethniques, mais de l'autre côté, vous dites que non, il y a un problème. En fait, je pense que, tout simplement, le Mali et même l'Afrique, ce sont beaucoup de cultures, toutes très importantes et qu'on a trop souvent donné l'importance à une seule. Par exemple, pour le Mali, pendant longtemps, et c'est la critique des médias, on parlait des Maliens, mais on parlait des Maliens de Bamako. Ouais. Or, les Maliens de Bamako qui n'aimaient pas la France à un moment, mais c'était particulièrement et surtout des Bambaras, c'était surtout des Malinkés. Donc, c'était pas des Touaregs, c'était pas des Dogons, c'était pas des Sonrai. Les Sonrai, c'est les gens de Gao. Mmh. Et ces gens-là, moi, j'ai fait de l'embed avec l'armée française.
Alors, embarquement.
Ouais, ouais. Avec l'armée française. Je me souviens, c'était pas, il y a pas si longtemps, c'était en 2017-2018, au passage des troupes françaises, il y avait les petits drapeaux bleu, blanc, rouge encore. On n'allait pas nous dire que ces gens-là étaient hostiles à la France. Ils l'étaient parfois dans certaines villes, les capitales, un petit peu influencés par des mouvements d'extrême gauche locaux.
L'élite, la bourgeoisie.
Peut-être, mais surtout les petits mouvements d'extrême gauche qui savaient qu'ils pouvaient en profiter un petit peu. Et donc, 300 personnes dans une place à Bamako, ça devenait hostilité complète.
Et c'est là où vous avez vu à l'œuvre ces fameux médias politiquement corrects pour lesquels vous travaillez. C'est-à-dire qu'il n'y avait que ça qui les intéressait à Paris.
Exactement.
Il y avait une grille de lecture en permanence. Vous le décrivez bien, ça.
Alors, je suis désolé, mais moi, je crois quand même qu'il y a eu de l'opportunisme. L'Afrique, quand j'y suis arrivé, moi, dans les années 2000, j'ai commencé en 2002 à vraiment y aller, et puis je me suis installé en 2008. Il n'y avait personne, il n'y avait pas un journaliste français.
Ça n'intéressait plus.
On était deux, et alors, ça n'intéressait pas, ça payait mal, c'était vraiment mal vu. Voilà, c'était le mépris, en fait, et même les rédactions. Je me souviens toujours à France Info, quand il y a eu le fameux scandale de ce bateau, le Djola, qui a coulé. J'avais eu une réflexion.
En Casamance ?
En Casamance.
Ouais.
J'avais une réflexion d'un rédacteur en chef qui m'avait dit « c'est pas grave, c'est l'Afrique ». France Info, en 2000, 2002, c'est pour vous donner une idée.
Et pourtant de gauche, monsieur, le cœur avant tout.
Voilà. Donc, moi j'ai vu effectivement beaucoup d'opportunistes arriver, mais je le dis, ce sont des opportunistes, des gens qui sont intéressés à l'Afrique sur le tas. Moi j'ai un vrai amour de l'Afrique, j'y ai vécu, mais j'ai aussi Jean Rouge, des gens comme ça, Marcel Griaul, des grands explorateurs qui m'ont donné envie, même Saint-Exupéry par exemple, m'ont donné envie d'Afrique. C'était pas comme ça, parce que je me suis dit, tiens, il y a un poste à prendre, ça va me faire un peu d'argent.
C'était la concrétisation de lecture, de rêve, de rencontre.
Ouais. Et je pense que d'ailleurs, en Afrique, les amis que j'ai me respectent pour ça, quelles que soient mes idées, qui sont d'ailleurs pas des idées d'extrême droite, qui sont des idées de quelqu'un d'honnête, de sincère. On aime bien les gens sincères en Afrique. On aime bien le rapport un peu direct. On n'aime pas trop les gens qui sont.
Les dans flatteurs.
En même temps, c'est pas très bien passé là-bas à cause de ça, c'était pas assez direct, il faut pas être dans l'ambiguïté en Afrique, on peut pas dire je vous aime bien mais voilà, ça fonctionne pas, il faut un rapport direct.
Faites plus de discrimination positive, mettez plus en avant les homosexuels, etc., etc.
Alors ça passe pas du tout, évidemment. C'est
la grande fâcherie en fait entre le gouvernement d'Emmanuel Macron et les Africains.
Là, je crois qu'on a oublié nos priorités, je veux dire, à un moment on peut pas tout le temps rappeler ces faits-là ou avoir envie de défendre tout ça. Il faut d'abord aider ces pays à se développer économiquement, socialement. C'est ce que font d'ailleurs les grandes puissances qui sont actuellement les Marocains. C'est pas une grande puissance, on va dire, mais c'est un grand pays africain.
C'est une puissance qui a beaucoup d'influence.
Voilà,
en Afrique,
c'est un pays qui monte. Et puis les Turcs.
Et ils ont une vraie stratégie africaine, les Marocains, de très long terme.
Oui, et puis en fait, c'est simple, mais aujourd'hui, il y a une espèce d'ouverture à beaucoup de puissances ou beaucoup de pays, ce qui n'est pas plus mal. C'est vrai qu'il fallait un petit peu sortir de notre précaré, mais je pense qu'on va revenir parce que justement, on a parlé de cette connaissance quand même du terrain et de cette amitié qui est ancienne.
Vous pensez, c'est votre prédiction en quelque sorte, vous pensez que la Russie sera incapable au final de répondre aux véritables attentes de l'Afrique sahélienne, puisqu'on parle de l'Afrique sahélienne, et que en fait ces erreurs successives finiront par lasser en fait ceux qui ont parié sur elle à court terme de manière opportuniste contre la France pour peut-être d'une manière ou d'une autre, rappeler la France.
Oui,
vous n'êtes pas le seul, François-Xavier. Le général Blachon, par exemple, avec lequel je me suis longtemps entretenu il était un des anciens patrons de Barkhane avec une vraie vision. C'est le pronostic qu'il fait aussi, un militaire.
Oui, et puis en plus, on a des expériences à côté des pays du Sahel, par exemple, comme le Bénin, alors qu'il a été critiqué, Talon, qui est l'ancien président sortant, on l'a traité dans tous les médias mainstream bien pensant, de dictateur, un affreux dictateur. Bon, c'était un libéral, évidemment, il ne pouvait pas être bien. Et cet homme-là a remonté son pays. Moi, j'ai connu le Bénin il y a très longtemps, c'est un pays par terre. Il a remonté son pays en quelques années. Alors, tout ne va pas bien. Évidemment, il était un peu dur avec les opposants, mais les opposants, c'est toujours compliqué aussi en Afrique. Voilà. Donc, et je crois que c'est un pays aujourd'hui qui va mieux, avec des techniciens africains qui sont très bien formés et qui, effectivement, est une ouverture pour les intérêts français occidentaux, parce que c'est un pays équilibré, c'est un pays stable. Alors, il y a eu des tentatives de déstabilisation, des tentatives de coup d'État, on l'a vu en décembre dernier, mais
qui, pour la première fois d'ailleurs, a été stoppé avec l'aide de la France.
Exactement.
C'est un tournant dans la stratégie française qui revient en fait, qui décide de revenir en fait là où elle pense qu'elle est, elle a une carte à jouer, alors que c'est le contraire de ce qui s'est passé au Niger. Au Niger, la faillite de la stratégie française. Il nous reste deux minutes ensemble, François-Xavier Freland, auteur de La Grande Repentance aux éditions Intervalle, un livre formidable. Hein, je voudrais écrit en chapitre court et nerveux, avec une écriture très personnelle. On y retrouve plein de témoignages, d'histoires, de portraits d'Africains, des chefs d'entreprise, des musiciens, des hommes politiques,
des
présidents. C'est passionnant. Chapitre 16, le business juteux du discours mémoriel. Chapitre 18, les centres culturels français ou le spectacle permanent de l'autoflagellation. La propagande djihadiste low cost. Et j'en passais des meilleurs. Comment la Russie a damné le pion des Français en Afrique. Mais pour terminer, il nous reste 1 minute 19 secondes. Je voudrais quand même vous dire ce que j'ai le beaucoup apprécié. C'est votre liberté de ton et votre critique, liberté de ton générale, et votre critique de vos années passées à travailler en correspondance avec ces médias qui sont en fait, qui se regardent le nombril.
L'entre-soi.
L'entre-soi, voilà. Et un entre-soi avec les œillères de l'idéologie bien pensante en une seconde, en une minute.
Oui, bah écoutez, alors d'abord il y a des gens quand même bien dans ces médias,
hein.
Il y a forcément des collègues qui font bien leur boulot et je leur rends hommage. Et puis, alors je vais peut-être vous choquer, mais je ne suis pas un anti-audiovisuel public. Je pense que l'audiovisuel public doit simplement donner la parole à tout le monde. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui, on l'a compris.
Merci beaucoup pour votre regard africain, François-Xavier Freland, auteur de La Grande Repentance.
Merci François-Xavier Freland, merci Myriel Écraffray d'avoir animé cet entretien ici sur Ligne Droite. Tout de suite, la chronique de Victor Aubert.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et nous retrouvons donc Victor Aubert, directeur général d'Academia Christiana. Bonjour Victor, alors ce week-end au parc des expositions de Caen, l'entreprise Le Canon Français, dont nous avons parlé ce matin en entretien, a réuni plus de 4000 personnes pour un banquet géant, un rassemblement festif qui a pourtant provoqué l'ire de l'extrême gauche avec des pétitions relayées par la députée LFI Emma Fourreau et des contre-manifestations. Victor Aubert, que s'est-il passé exactement en Normandie pour susciter une telle levée de boucliers ?
Bonjour Alexandre, eh bien figurez-vous qu'il ne s'est absolument rien passé, ou plus exactement, tout s'est très bien passé. 4000 personnes se sont rassemblées pour un banquet gigantesque, jovial, pacifique et assumé comme franchouillard en partageant du cidre et du cochon grillé, absolument rien de plus.
Comment interprétez-vous alors cette obsession de l'extrême gauche qui s'acharne à vouloir interdire des banquets en les assimilant à des meetings de l'ultra-droite ?
Eh bien, c'est tout le paradoxe d'une gauche qui, jadis, défendait la dimension populaire des banquets républicains ou de la fête de l'humanité et qui en a aujourd'hui une peur panique. Alors, d'une part, parce que la gauche est devenue le parti du puritanisme, du fanatisme, du jusqu'au boutisme. Il faut toujours aller plus loin dans l'interdiction, dans la censure. Et pour exister en tant que révolutionnaire ou en tant qu'antifasciste, aujourd'hui, il faut continuellement s'inventer des adversaires. Donc, il faut traquer le fascisme dans un béret, dans une tranche de camembert, pendant que la vraie violence, celle qui tue vraiment, bah, fauche nos jeunes en toute impunité, on l'a tragiquement vécu à travers l'assassinat de Charlie Kirk ou de Quentin Derenck. Mais au-delà de cette hystérie militante, le fait que l'antifascisme désigne un banquet comme son ennemi principal est le révélateur d'un phénomène bien plus profond.
Alors justement, que révèle ce succès fulgurant des banquets français ou de la marque Gueuleton sur notre société ?
Je crois qu'il est l'illustration parfaite de l'archipélisation de la France. Attention, ce succès est impressionnant, mais il faut le relativiser. Il caractérise une certaine sociologie et non pas le pays tout entier. D'autres îles de notre archipel se retrouvent dans les concerts d'Aya Nakamura, dans les files d'attente des fast-foods ou devant les portes de Disneyland. Mais ce qui est fascinant ici, c'est de voir que de nombreux jeunes Français, qui sont âgés souvent majoritairement entre 20 et 35 ans, sont issus pour la plupart et dans la grande majorité de ce qu'on appelle la France périphérique, sont prêts à débourser souvent plus de 80 euros pour s'asseoir à une grande tablée et chanter du Michel Sardou. Sociologiquement, ça recoupe d'ailleurs en grande partie la carte du vote pour le Rassemblement national. Et ça manifeste un triple besoin, à la fois une nostalgie de l'enracinement à l'heure de la mondialisation, une volonté aussi de faire un commun à l'ère de l'hyper-individualisme, et surtout un besoin vital de sécurité, parce que, dans le fond, on paye un petit peu pour une sorte de safe space dans l'époque. Excusez-moi, ça va me coûter cher. À une époque où on sait qu'aller à une simple fête de village à la campagne peut se solder par un coup de couteau gratuit.
Mais alors Victor, en tant que défenseur d'un réveil spirituel de la France, doit-on s'en réjouir ?
Alors oui et non Alexandre. Non, car cela révèle encore ce que le sociologue Michel Maffesoli appelle le tribalisme. Hein, c'est l'alliance paradoxale de l'individualisme et de la société de consommation. Hein. En payant sa place 80 euros pour un banquet du canon français, on consomme une identité un petit peu clé en main, comme on fait un spectacle. C'est ce que la gauche appelle du gastro-nationalisme de marché. Enfin, on n'ose pas vraiment la rencontre charnelle autrement que dans une niche qui est à la fois sécurisée, tarifée. Mais d'un autre côté, oui aussi, on peut s'en réjouir, car malgré toutes les limites commerciales de ce phénomène, cela prouve quand même qu'une partie du peuple français veut encore vivre ce banquet, nourrissent un sentiment d'appartenance et peuvent être l'étincelle d'un réveil plus profond.
Alors que concluez-vous pour l'avenir de cette génération même ?
Eh bien, j'en conclus qu'il faut multiplier les initiatives de ce genre, car elles sont fondamentalement métapolitiques. Elles construisent une contre-culture face à la tristesse de notre époque. Mais notre devoir, c'est de chercher à peut-être en élever le niveau. À l'ère des masses, les standards ont toujours tendance à s'abaisser. C'est pourquoi je crois que nous devons, en parallèle, proposer une culture un peu plus spirituelle, plus incarnée, plus profonde. Et c'est d'ailleurs exactement le travail que mène une organisation comme Academia Christiana. Et pour clore cette chronique, mon conseil pratique de la semaine pour nos auditeurs, ne vous contentez pas de consommer votre patrimoine une fois par an sous un chapiteau, mais recréez aussi des banquets chez vous. Invitez vos voisins, soutenez vos artisans, votre charcutier de village, refaites vos propres tables familiales, le premier bastion de notre civilisation.
Merci beaucoup Victor Robert pour cette chronique et cette très bonne analyse, je trouve en tout cas, du canon français. On vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Et nous retrouvons Gilles Brochard pour sa revue de presse. Gilles Brochard, bonjour, vous êtes loin, mais est-ce que vous êtes avec... Oui, c'est bon, vous êtes bien avec nous.
Bonjour Franck et bonjour chers auditeurs.
Alors, l'onde de choc démographique déferle sur la France.
Oui, le grand effondrement, clame Laurence de Charette dans son éditorial en une du Figaro. Et en page intérieure, on peut lire que d'ici à 2035... le système scolaire français comptera 1,7 million d'élèves en moins, soit une baisse de 14%. Alors, conséquence de la diminution des naissances amorcée en 2010, la décrue touchera d'abord l'école primaire, moins 15%, avant de se déplacer dans les collèges, puis les lycées, moins 13%. Un choc démographique sans précédent. Publié le 7 avril, cette note va servir de base de travail à la série de réunions que le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geoffrey, ouvre ce 21 avril avec les syndicats enseignants. Alors il faut savoir surtout, comme le souligne le Figaro, que la capitale est la grande championne de la baisse démographique avec près de 30% d'élèves en moins à l'école primaire en 2035. Les Français désertent Paris, surtout quand ils ont des enfants, mais le privé, lui, résiste mieux. Si l'Académie a supprimé 70 postes d'enseignants pour les établissements catholiques sous contrat, le directeur diocésain estime, lui, que si l'on avait suivi la demande des familles, il aurait fallu en ouvrir une dizaine. Alors à Paris, les élèves du privé pèsent déjà lourd dans l'ensemble des effectifs scolaires, avec 25% à l'école primaire et 37% dans le secondaire.
Et inquiétant, quels sont les remèdes ?
Alors que l'éducation nationale se prépare donc à fermer des classes, les grandes écoles, écrit encore le Figaro, elles réfléchissent à une alternative pour maintenir leurs effectifs, voire tout simplement pour continuer de les faire croître. Si notre vivier de recrutement chute drastiquement, nous allons devoir nous tourner vers un marché international, explique Emmanuel Mettet, directeur général de l'école de commerce EDEC. Alors aujourd'hui, l'école lilloise compte environ un tiers d'étrangers parmi ses 9400 étudiants, mais elle vise 2000 inscriptions supplémentaires d'ici à 2028, notamment des étudiants non français, alors qu'en 2014, les étudiants étrangers représentaient 45% des effectifs de l'école de management parisien pour 90 nationalités. Il compose aujourd'hui les deux tiers des promotions et représente 140 nationalités. Alors à terme, Léon Lolussa espère faire grimper cette proportion d'élèves à 70% pour 170 nationalités Et j'ajoute que la tendance semble être similaire à Sciences Po, où la moitié des étrangers sont des étudiants sont étrangers. Alors je vous rassure, certaines écoles n'épousent pas automatiquement cette politique, préférant maintenir leur étiquette d'établissement français. C'est le cas de Delphine Manceau, directrice générale de l'école de commerce Neoma, qui confie « Ces prochaines années, 70% de nos étudiants resteront français. Nous considérons que notre identité française est au cœur même de notre attractivité internationale. » Et selon elle, si tous les pays confrontés aux mêmes défis démocratiques mis sur l'étranger pour remplir leurs classes, cette stratégie a ses limites, car n'est pas une ressource infiniment extensible.
Oui, bien sûr. Et alors, à la une de l'opinion, un portrait du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez.
Oui, Nunez, portrait du vrai faux Retailleau qui prend en effet le quotidien. Le prétexte, tout simplement, la réunion aujourd'hui, place Beauvau, de la sixième réunion sixième réunion de la coalition européenne contre la criminalité organisée qui réunit une dizaine de ministres de l'Intérieur et de la Justice. Alors, de l'Union européenne, on le sait, le ministre français s'est emmêlé un peu les pédales il y a quelques jours. Hein, quant à la Grande Mosquée, le 12 mars dernier, il avait dit « Je ne serai pas celui qui ira expliquer à des enfants qu'en portant le voile, elles menacent le vivre ensemble républicain ». Formule alambiquée, écrit Marie-Amélie Lombard, 7 ans, et angle d'attaque rêvé pour Jordan Bardella qui avait réagi. Le rôle du ministère de l'Intérieur ou du ministre de l'Intérieur n'est pas d'assurer le développement de l'islam. Et puis comme on le soupçonnait de complaisance avec l'islam communautariste, on s'en souvient, le ministre a tenté d'interdire les rencontres des musulmans, vitrine des frères musulmans qui se tenaient au Bourget le week-end de Pâques. Alors malgré son apparence bonhomme, son ton patelin, Laurent est un faux détendu, juge un proche qu'il a croisé récemment, rapporte l'opinion. À son arrivée à la tête du ministère, Nunez est la carte anti-Retailleau, écrit encore Marie-Amélie Lombard. Même s'il a fait tomber quelques têtes, il a vite pris le contre-pied de son prédécesseur, et notamment sur l'Algérie, obsédé à ne pas faire du Retailleau, raconte un préfet. Tout comme sur le lien qu'il se refuse à faire entre immigration et délinquance, à chaque fois, leur réponse tombe, il ne sert à rien de stigmatiser la communauté musulmane. Mais si la popularité du garde des Sceaux Gérald Darmanin grimpe à 45% dans le dernier sondage paru, celle de Laurent Nunez ne dépasse pas les 25%.
Autre sujet à la une, les produits alimentaires qui, face à la crise mondiale, pourraient encore augmenter.
Oui, alors sujet numéro un pour les Français, l'alimentation en ce moment, et l'inflation pourrait donc atteindre 4 à 5% dans le sillage de la guerre au Moyen-Orient, avec une hausse progressive sur les prochains mois, selon l'UFC Que Choisir, et dont parlent les Échos en gros titre. Alors l'industrie laitière est en première ligne quand on sait que cette matière première doit être collectée tous les deux jours, avec un tarif du gazole qui a bondi de 45%, leur coût de revient devrait être forcément touché. Même chose pour l'industrie charcutière, qui est une industrie de faible marge, moins de 2% en moyenne. Le moindre choc sur les coûts peut déstabiliser rapidement les entreprises, même si la grande distribution pourrait être en mesure de davantage absorber le choc sur ses produits. Et côté fruits et légumes, on peut s'attendre à une hausse de 10 à 15% du prix des fruits en général, à la suite de l'augmentation des matières premières, de 6% pour le carton et de 35% pour le transport et de 30 à 60% pour les engrais. Alors une hausse qui se répercutera sur les cerises et les abricots qui devraient arriver sur les étals. Voilà, ça favorisera de toute façon les productions locales.
Et ça me fera revenir chez mes grands-parents qui ont un magnifique cerisier également dont je profiterai allègrement.
Et j'espère qu'on en profitera aussi.
Oh là là. Alors pourquoi le commissariat du 18e arrondissement a dû être évacué lundi matin? Expliquez-nous aussi.
Alors, tout simplement parce qu'un homme s'est présenté à l'accueil avec un obus de la Seconde Guerre mondiale entre les mains, comme le révèle Le Parisien. C'est en vidant sa maison de Normandie que l'homme a trouvé cette bombe avant de la transporter par le train jusqu'à la capitale. Et c'est pourquoi un périmètre de sécurité a été déployé dans la rue. Heureusement, les équipes de déminage du laboratoire central de la préfecture de police ont constaté que l'engin ne présentait aucun danger immédiat. Alors un conseil, Alexandre, si vous trouvez un obus dans le jardin de vos grands-parents, n'y touchez pas et appelez la police.
Très bien. Eh bien écoutez, je transmets aussi le message. Merci beaucoup Gilles Brochard d'avoir été avec nous ce matin. On vous dit à demain.
À demain.
Zone libre.
Zone libre, c'est le moment un petit peu récréation pour vous, Maïlys Closel et Magda Dodefeuille. Vous pouvez déployer l'intégralité de vos talents. Maïlys, on va commencer par vous. Vous aviez un sujet dont vous vouliez nous parler.
Oui, effectivement, chers auditeurs, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours, Julien Audoux, le député du Rassemblement National, a posé fièrement aux côtés d'Ina Opoku-Devez, la Miss France, Miss Tahiti, qui est élue Miss France aujourd'hui, lors d'une séance de dédicace où tous deux s'étaient rendus. Et figurez-vous que ça a provoqué un véritable tollé sur les réseaux sociaux, puisqu'effectivement, le comité Miss France soumet donc à ses élus d'être totalement neutre politiquement. Et donc, voilà, ça a provoqué un véritable tollé. On a eu énormément de messages sur les réseaux sociaux.
Précisons quand même que la raison pour laquelle il y a eu cette photo, c'est parce que Miss France était, je crois, en déplacement dans Lyon, qui est le département dont Julien Audoul est un des députés. Et c'est pour cette raison précise que Julien Audoul était présent. C'était pas un rassemblement politique d'une quelconque façon.
Oui, bien sûr, ils se sont simplement croisés. Ils ont fait une photo et donc le président du comité Miss France a demandé à Julien Audoul donc de supprimer la photo, chose qui n'a pas été faite jusqu'à présent. Mais ni le député et ni la Miss France n'ont réagi pour le moment.
Bien, et puis écoutez, en tout cas Maëlys, ce qui est certain c'est que quand vous serez élue Miss France, vous aurez sans doute moins de pudeur à ce niveau-là et on se doute que vous ne souhaiterez pas forcément la paix dans le monde, ce sera peut-être pas votre priorité en tout cas.
Elle est déjà Miss Ligne Droite donc ça va, c'est un bon présage.
Exactement, c'est
mais
un très bon
début. Mais Magda est pas loin, attention.
Oui, exactement, Magda en embuscade avec une nouvelle information.
Oui, exactement, moi je vais vous proposer une activité très intellectuelle qu'il ne faut absolument pas rater. Donc voilà, si vous n'avez pas d'idée pour combler votre temps libre, chers auditeurs, ou si vous êtes quelqu'un de talentueux, et là je m'adresse tout particulièrement à Alexandre, puisque cette activité lui est parfaitement adaptée. Le zooparc de Beauval n'est jamais le dernier donc à innover. Donc il y a beaucoup d'innovations qui coûtent des millions d'euros, et la dernière est beaucoup plus modeste. Et elle sera même diffusée par la caravane du Tour de France. Voilà, la caravane de Beauval qui lance un concours national d'imitation de bruits d'animaux. Voilà, ces sons serviront pour la bande originale diffusée tout au long de la caravane du Tour de France. Et donc, vous avez jusqu'au 3 mai. Le public est ainsi invité à imiter le bruit d'un animal du parc et à le partager sur les réseaux sociaux avec la mention hashtag bruit de Beauval. Et on peut ensuite voter d'ailleurs sur le site du zoo pour les meilleures imitations. Il ne faudra pas hésiter à voter pour Alexandre, puisque l'entreprise indique que les 10 gagnants seront ensuite invités au zooparc de Beauval pour une journée VIP pour rencontrer leur animal favori. Donc on espère que Ligne Droite gagnera. Merci Alexandre d'ailleurs de participer à ce concours.
Écoutez, ce que je propose peut-être comme petite activité, c'est qu'on s'entraîne tous les trois. Maëlys, quel est l'animal que vous savez le mieux imiter?
Franchement, j'ai pas beaucoup de talent dans ce domaine.
Bah, on peut faire un petit jeu, hein. Ça c'est quoi?
Waouh, c'est quoi? Oula. Ça
Eh bien, c'est le panda.
Remettez-le à l'instant. Je vais remettre
le panda.
C'est ridicule.
On dirait un cheval.
Ah oui, j'avais jamais entendu le bruit.
Bon, Magda, vous avez bien quand même un animal que vous savez imiter.
Malheureusement, il sera sûrement pas au parc de Beauval.
Bah, dites-nous.
Une petite poule.
Allez-y, une petite poule.
La poule, on y va.
Allez.
Vous mettez un peu la pression, Alexandre.
C'est pas mal.
Bah ouais, c'est pas mal.
C'est pas mal, il y a quelque chose. Hein.
Il y a beaucoup de talent sur ce plateau. Ouais.
Très bien. Et puis Franck, vous de votre côté?
Pour le cri de l'animal?
Oui.
Moi, je peux faire le chien.
Allez-y.
Ouf. Le gros chien. Comme je suis un petit monsieur, je fais le gros chien.
C'est quand même pas très convaincant.
Hein. Bah, je
fais le shadow, le chameau.
Votre banque son est vraiment
sans limite.
À faire de la
belle. J'ai la girafe, j'ai tout. Hein.
Moi, je.
Alexandre, vous, quel est l'animal que vous allez
imiter? Non, écoutez, j'en ai peut-être un en tête que j'avais déjà fait à l'antenne. Hein. Je vous rappelle, c'est. Voilà.
C'est pas mal. Moi, j'ai le Richard, si vous voulez.
Allez-y.
Oui.
Manda, Gazada, Regaïa, Manda, Robocondo, Calamanda.
Vous avez vu?
Super, merci beaucoup. Et bah écoutez, hashtag Zoo de Beauval. Voilà, j'espère que Louis Rigaudière prendra cet extrait pour le diffuser sur les réseaux sociaux. Surtout pas. Merci à tous, chers auditeurs, d'avoir été présents ce matin. C'est le moment où nous prenons congé de vous sur YouTube et sur X. Merci d'avoir été avec nous, même pour suivre nos blagues les plus stupide sur la fin, mais enfin c'est aussi ce que vous aimez un petit peu, c'est cette ambiance de camaraderie, mais la camaraderie même elle a un prix.
Exactement, on a des camarades mais si nos camarades peuvent nous envoyer quelques euros pour la suite de la vie de Radio Courtoisie, pour cette grande aventure qui a 40 ans quasiment au compteur et qui défend vos idées chaque jour avec sérieux, détermination et parfois un peu de légèreté, alors rejoignez la grande famille sur soutenir.rc.fr et nous vous adressons par avance un grand merci.
Merci, chers auditeurs, et tout de suite, on va écouter Yann Valery qui nous parle de la révolte populaire en Irlande.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, eh bien, nous allons parler d'Irlande, chers auditeurs, ici sur Radio Courtoisie. On aime bien justement aller chercher un petit peu certains sujets qui existent dans d'autres pays, qui n'existent pas forcément sur les médias que vous avez l'habitude d'entendre. On va donc recevoir pour ça Yann Valery. Yann Valery, bonjour. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du média Braise Info. Et justement, aujourd'hui, le sujet qu'on voulait évoquer, c'est ce sujet de ces révoltes populaires en Irlande. Alors, je résume, hein, mais tout commence le 7 avril avec une manifestation d'agriculteurs contre la hausse des prix du carburant liée à la guerre en Iran. Et là, en fait, en quelques jours, c'est le pays entier qui se soulève.
Déjà, bonjour à tous vos auditeurs. Effectivement, alors pour revenir sur le contexte, bon, vos auditeurs savent qu'il y a eu cette crise au Moyen-Orient, là, qui s'est déclenché fin février. Donc le blocus d'Ormuz, du détroit d'Ormuz, a eu des répercussions énormes en Irlande, en République d'Irlande et en Irlande du Nord. Faut savoir que l'Irlande importe 80% de son énergie et est totalement dépendante des hydrocarbures, hein, 93% du transport, 45% de l'électricité. Donc il y a une réelle dépendance et là, ils l'ont prise de plein fouet. Et les taxes sur les carburants sont parmi les plus élevées d'Europe. L'Irlande, c'est un peu comme la France là-dessus. Mmh. Donc concrètement, le diesel est passé en quelques jours de 1,70€ le litre à 2,17€, ce qui fait une augmentation à peu près 30%. Et l'essence de 1,74€ s'est montée quasiment jusqu'à 2€. Mmh. Et du coup, ça fait que dès mars 2025, le gouvernement irlandais, qui est une coalition, on va dire, centriste, on va dire que ça, c'est pas loin de la Macronie, quoi. C'est dirigé par deux partis, le Fine Gael et le Fianna Fáil. Et ce gouvernement a annoncé une première baisse temporaire des taxes, ce que d'ailleurs n'a pas fait la France, hein. Eux, en Irlande, ils ont décidé de baisser 20 centimes sur le diesel et 15 centimes sur l'essence jusque fin mai. Ce qui représente un coût de 250 millions d'euros, ce que la France n'a pas fait encore une fois. Mais ça n'a pas suffi à calmer la colère, parce que les gens, ça fait des années de toute façon en Irlande qu'ils sont à bout. Il n'y a pas eu de gilets jaunes encore, mais on se souvient des révoltes qu'il y avait eu sur la question migratoire, sur la question du logement, etc. Et là, ça a été la goutte d'eau. Il y a eu des manifestations spontanées qui se sont déclenchées à partir du 7 avril. On a vu des...
Oui,
des
alors c'est ce que j'allais dire. Il y a une Valérie, ouais. En l'occurrence, au début, donc, c'est vraiment les agriculteurs essentiellement et les routiers qui manifestent justement contre la hausse des prix de l'essence. Donc. Et puis après, en fait, il y a d'autres revendications qui s'ajoutent à celles-ci, comme le coût de la vie, le manque de logement ou alors même l'immigration, selon ce que j'ai pu lire. Comment expliquer cette sorte de... on va dire cette convergence des luttes populaire.
Alors, faut avoir raison gardée sur la question de l'immigration. Honnêtement, de ce que j'en ai observé, il n'y a pas eu vraiment le sujet n'est pas réellement rentré dans le débat dernièrement, ces dernières semaines. Mmh. Sur la question du logement, oui, parce que ça fait des années qu'il y a une crise du logement sans précédent en Irlande et que tout simplement les gens ne parviennent plus à se loger dans les grandes villes. Et puis à la campagne, c'est de pire en pire. L'Irlande a subi de plein fouet le déclin du tourisme aussi à cause. Alors là, pour le coup, ça c'est à cause de la vague migratoire, puisque je crois que je l'avais déjà dit sur votre antenne. Il y a des tonnes d'hôtels et de logements qui ont été réquisitionnés depuis des années pour accueillir des migrants. Mmh. Ce qui fait que quand vous êtes un touriste, vous avez de plus en plus de mal à vous loger en Irlande, hormis à des prix fous. Donc, vous n'allez plus en Irlande. Et donc, en fait, qui paye le prix de ça? Ce sont les Irlandais eux-mêmes, puisqu'ils vivaient en partie du tourisme aussi. Vous avez des pubs qui ferment, des restaurants qui ferment, des boutiques qui ferment. Et en fait, du coup, c'est plutôt une convergence des catastrophes pour les Irlandais, qui fait que effectivement, après, à partir du 7 avril, il y a eu des blocages partout, des blocages de ports, de dépôts de carburant. La raffinerie de Whitegate dans le comté de Cork qui est la seule raffinerie d'Irlande qui fournit 40% du carburant national, a été bloquée. Mmh. Les grandes routes vers Cork, Limerick, Galway ont été bloquées. Et on va dire que cette contestation a escaladé autour du 9-10 avril, avec des stations-service totalement à sec. Je crois qu'il y a eu jusqu'à 500 stations-service à sec le soir du 10 avril. Et le vendredi et samedi 11 avril, là, on est monté à 600 des 1500 stations-service du pays à sec, avec des services d'urgence qui se sont retrouvés eux-mêmes en difficulté, hein, les pompiers, l'ambulance, les hôpitaux. Il y a eu des réelles difficultés pour les alimenter. Le Premier ministre, lui, a qualifié la situation de très grave. Et au départ, la classe politique a envoyé quasiment l'armée, l'armée en réserve et de grosses troupes de police, qu'on appelle la Garda en Irlande, pour intervenir en force s'il le fallait. Mais en fait, le gouvernement s'est rapidement, qui a traité quand même les bloqueurs, les manifestants d'émeutiers, on va dire presque d'agents parasites. Enfin, au départ, il y a eu une vraie agressivité des autorités vis-à-vis des manifestants, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait un réel soutien populaire, hein, plus de 60% de la population qui soutenait ce mouvement de contestation et ce ras-le-bol. Et finalement, le dimanche 12 avril, le gouvernement a capitulé et a annoncé un nouveau paquet de 500 millions d'aides, donc le double des premières aides, avec une baisse supplémentaire de 10 centimes du litre sur l'essence et du diesel, le report de la hausse de la taxe carbone et des aides ciblées pour les agriculteurs, les pêcheurs et les transporteurs routiers. Dès lors, la contestation en Irlande s'est calmée, mais elle peut revenir n'importe quand, parce que là, ils sont à fleur de peau.
Oui, alors justement, une question qui se pose, c'est quand même que le gouvernement finalement a plié, mais il y a eu beaucoup de dissensions au sein de ce même gouvernement tout de même, c'est-à-dire que tout le monde n'était pas tout à fait d'accord sur la ligne à adopter dans ces circonstances, d'autant que je crois qu'il y a un ministre d'État qui a démissionné aussi dans la foulée. Est-ce que ce genre de mouvement peut avoir une traduction politique d'une certaine façon en Irlande, soit sous une forme, soit en favorisant tel ou tel parti, soit en recomposant un petit peu l'équilibre des forces ou les sujets débattus au sein de l'Irlande.
Alors, peut-être qu'effectivement, je pense qu'il est un peu trop tôt pour le dire, il faudra voir lors des prochaines élections, parce que on s'est dit la même chose quand il y a eu les grandes manifestations contre l'immigration. On s'est dit, tiens, il y a des élections qui arrivent, les grands partis, donc qui sont le Fianna Fáil qui est au pouvoir actuellement, va être balayé, etc. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, même s'il y a eu effectivement une augmentation du vote contestataire, mais les partis, on va dire, de gouvernement sont restés quand même en place, parce que il y a quand même une forme de tradition, on va dire, conservatrice en Irlande, qui fait que les partis du système ne sont pas bousculés. Il y a eu une motion de défiance déposée par le Sinn Féin, qui est aujourd'hui le plus gros parti d'opposition, hein, le parti de gauche républicaine, qui a estimé que l'aide avait été insuffisante et qu'il y avait eu un retard dans la réponse. Donc cette motion de défiance a été rejetée parce qu'il y a eu un vote de confiance le 14 avril. Le gouvernement a survécu de justesse, hein, 92 voix pour, 78 voix contre. Donc ça montre vraiment qu'il a été mis en ballotage. Il a été secoué en tout cas. Il y a des élus effectivement qui ont retiré leur soutien pour protester. Deux élus, alors ce sont des élus plutôt indépendants. Donc ils siègent avec la majorité, mais ils sont indépendants. Donc ensuite, vous avez effectivement tout ce qui
moi
est...
Moi aussi, j'ai eu. Allez-y, je vous en prie.
Là, vous avez un peu le Sinn Féin qui mène la contestation, seulement le Sinn Féin a perdu beaucoup de crédibilité dans la crise migratoire il y a quelques années, notamment puisqu'il a été accusé par la population de favoriser l'immigration depuis des années, parce que le Sinn Féin a toujours eu comme slogan « Refugees welcome », et le Sinn Féin a toujours œuvré là-dessus. Il n'empêche que c'est actuellement quand même la principale force politique d'opposition, et il n'empêche aussi qu'on ne sait pas vraiment sur quoi ça peut aboutir dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, parce qu'en fait, on se dit qu'en Irlande, il suffirait d'une petite étincelle sur un tout autre sujet pour que ça reparte. Encore une fois, il y a une population qui s'est précarisée depuis des années. Certes, il y a des partis anti-système qui sont apparus, mais qui ne capitalisent pas encore sur cette colère populaire, parce que justement, ils apparaissent comme voulant trop vouloir capitaliser et récupérer un petit peu tous ces mouvements. Et c'est quelque chose d'assez imprévisible. J'ai envie de dire, on est peut-être en Irlande à l'époque du prémisse des gilets jaunes, c'est-à-dire quelque chose de difficilement cernable et de difficilement contrôlable. Mais aussi alors, bien.
Justement, pardon, Yann Valéry, vous me faites une sorte de transition parfaite. Il nous reste 4 minutes. Le dernier point de cet entretien que je voulais aborder, c'est évidemment la comparaison avec la France. Parce que vous l'avez bien expliqué, hein, mais révolte contre les carburants qui mène effectivement à une manifestation soutenue par la majorité, la grande majorité de la population qui déstabilise le gouvernement, qui, à côté de ça, porte sur le coût de la vie, le coût du logement en général. Et alors, même si c'est pas directement lié, vous l'avez rappelé, mais en parallèle depuis quelques mois, quelques années en Irlande, et bien des manifestations anti-immigration qui se multiplient avec des partis, une opposition, enfin, et un parti centriste au pouvoir. Quelque part, ça fait quand même énormément de parallèles avec, avec la France. Et vous l'avez dit, les Irlandais ont quand même réussi à faire plier le gouvernement. Selon vous, est-ce que c'est pour des raisons contextuelles de géographie, ou alors est-ce que c'est justement qu'on arrive à une sorte de nouvelle ère, on va dire, pour l'Irlande et même pour les peuples celtiques en général?
Encore une fois, c'est difficile de faire des conclusions toutes faites là-dessus. Je pense que les autorités irlandaises ont compris qu'il y avait une réelle colère populaire et qu'en Irlande, cette colère peut... Historiquement, on sait qu'elle peut basculer dans la violence dure. Faut pas oublier que la lutte d'indépendance irlandaise, elle n'a que un siècle, un peu plus d'un siècle, et que en fait, même si les armes se sont tues, je pense qu'il y a encore des résidus là-dessus. Mmh. Alors si vous cumulez cela avec une réelle colère, hein, vous avez décrit tous les facteurs de colère possibles en Irlande actuellement. Le fait que ce soit une beaucoup plus petite, parce que souvent, là, on compare avec la France c'est 70 millions d'habitants, l'Irlande c'est 10 fois moins, donc oui. c'est un beaucoup plus petit pays, c'est beaucoup plus concentré, et en fait, vous n'êtes pas à l'abri d'un réel chaos et d'un réel blocage. Encore une fois, comme je vous ai dit, l'Irlande, par exemple, énergétiquement, est totalement dépendante. Si les Irlandais ne peuvent plus se chauffer cet hiver, ça va mal se passer si la crise continue. Si les Irlandais ne peuvent plus se loger, ce qui est déjà en partie le cas, au bout d'un moment, ça n'est pas tenable, surtout quand, dans le même temps, les autorités font venir des gens d'ailleurs. Alors là, ça s'est un petit peu calmé parce que je pense qu'ils ont compris la chose, mais il n'empêche que, encore une fois, moi j'invite vos auditeurs à essayer de s'organiser une semaine pour aller dans le Connemara, dans le Kerry, ou même autour de Dublin. Eh ben, ils vont voir les prix du logement pendant une semaine et ils vont déchanter et ils ne vont pas aller en Irlande tout simplement parce que c'est hors de prix. Après, ce qu'il faut également noter, c'est que ce mouvement de contestation s'est étendu jusqu'à l'Irlande du Nord, donc de l'autre côté de la frontière, l'Irlande du Nord qui appartient au Royaume-Uni, on le rappelle. Mais alors, il y a eu des manifestations, ça a moins pris qu'en République d'Irlande parce que les paramètres n'étaient pas exactement les mêmes, notamment sur la dépendance à l'énergie, mais il y a quand même eu, pareil, des blocages, des manifestations, des mouvements de colère. Donc là encore, il y a quelque chose qui est assez imprévisible pour les prochaines semaines, parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'il pourrait y avoir une convergence entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande dans la colère? Est-ce qu'il va y avoir des émeutes? Est-ce que ça va se calmer? Est-ce que les politiques vont enfin comprendre le peuple? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Il faut observer attentivement ce qui se passe en Irlande et se dire que ce qui se passe là-bas, oui, peut être le signe d'un réveil global, même si, encore une fois, il faut avoir raison gardée et il faut prendre en compte le particularisme de chaque peuple.
Merci beaucoup, Yann Valéry, pour votre analyse. Effectivement, on aurait pu même aller plus loin en se demandant, étant donné la question du Sinn Féin en Irlande du Nord et en Irlande, effectivement, n'est pas exactement la même, comment ça se serait articulé, quelles sont les nouvelles alternatives qui peuvent exister sur cette terre. Enfin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, et puis on vous dit quand même à bientôt pour de nouvelles analyses dans ce genre. Merci beaucoup, Yann Valéry.
Merci à vous, bonne journée à tous et à vos auditeurs.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous ce matin sur la ligne droite, la matinale de Radio Courtoisie. Je le rappelle à ceux qui nous découvriraient chaque matin, on sait que vous êtes très nombreux à nous suivre, à nous découvrir sur les ondes. Merci d'avoir été avec nous. Alors la question qu'on peut se poser, ceci dit, c'est en plus d'être avec nous, que pouvez-vous faire?
Si vous voulez vraiment être avec nous, participez à l'effort de guerre, soutenez Radio Courtoisie, donnez-lui du carburant, même 2 euros. Alors on sait que le prix d'un litre de carburant c'est cher, mais nous ça nous aiderait beaucoup, un petit litre par auditeur, et on serait sorti d'affaires. Soutenir, soutenir.rc.fr, c'est l'adresse de la station service de Radio Courtoisie, soutenir.rc.fr. Merci d'avance.
Voilà, déjà, sachez que même un petit don, hein, on se dit toujours que c'est inutile ou que c'est pas grand chose. Déjà, rien que moralement, ça nous aide beaucoup, et à côté de ça, ça nous aide vraiment concrètement aussi, dans le fond, pour tout ce qu'on veut faire. Alors, maintenant, question, quel est le programme du jour, Franck ?
Dans quelques instants, les mardis de la mémoire d'Anne Collin pour la violence au cœur de la Révolution française. À midi, le libre journal des historiens, le libre journal des histoires de l'art et du patrimoine d'Olivier d'Outrebente. 17h, le populaire, vous avez dit populaire, de Renaud Dourges. 17h30, restons courtois avec Richard de Sèze. Aujourd'hui, la vie ou l'euthanasie, point d'interrogation. 19h30, le libre journal de la vie française, de Laurent Poultier-Duménil. À 21h30, le libre journal de la réaction d'Hilaire de Crémier pour l'histoire de l'Algérie de 1848 aux années 70. Et puis à 23h, Aline pour la soirée musicale avec un ballet, Les créatures de Prométhée, opus 43 de Beethoven. Voilà, Alexandre.
Voilà, et pour demain, je peux vous annoncer déjà qu'on recevra Jean-Marie Delavigne, qui est éleveur, avec son avocat, voilà, Florence Bessy, qui nous parleront de la vaccination des animaux. Et puis à côté de ça, des fuites de données avec Fabrice Epelboin. Et on aura aussi quelqu'un qui est en direct du front en Ukraine, Emmanuel de Gestas.
Merci Alexandre, à demain.
À demain.